RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Exterior de España.
L'émission en français.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue un jour de plus à l'émission en français sur Radio Exterior de España. Savez-vous ce qu'est le syncrétisme ? Que savons-nous sur les cultures créoles ? Comment la danse peut-elle exprimer l'appartenance à un collectif ? Dans l'émission d'aujourd'hui, nous parlerons sur tout cela avec Inès Archer, aussi connue comme Sibyl Voudounès, une des artistes résidentes du programme Acento de la Casa Encendida de Madrid.
On pourrait dire que c'est en soi une danse aussi syncrétique. En fait, j'utilise mon champ chorégraphique qui serait le kuduro de l'Angola et le coupé décalé de la Côte d'Ivoire pour créer cette approche au vodou et aux racines haïtiennes. Donc en fait, en gros, ça vient un peu de cette expérience en tant que catalane de ne pas être considérée en tant que telle. Et en fait, ça me permet d'utiliser la danse comme une façon de créer justement mon identité. Et je le fais depuis cette idée d'une négritude.
Restez avec nous jusqu'à la fin pour écouter l'interview menée par Guillermo avec Inès Archer.
Nous parlerons aussi d'histoire, car nous connaîtrons le musée de Mères Anciennes de Monsalvo, dans la province de Salamanca. Un petit village d'une centaine d'habitants, dans lequel les maisons incluent dans leur structure leurs fossiles de créatures marines de presque 500 millions d'années, créant ainsi le plus grand musée de fossiles à l'air libre de toute l'Espagne. Comment était le territoire sur lequel se trouve l'Espagne il y a 400 millions d'années ? Quel type d'animaux y habitaient ? Les réponses à ces questions dans seulement quelques minutes.
Vous écoutez le producteur franco-équatorien Nicolas Cruz. Ce titre s'appelle La cosecha, la récolte, de l'album de 2015 Prender el alma, allumer l'âme.
Juan Morello, et au micro et dans vos oreilles, Inés Azagra et Guillermo Bravo.
Et à la production, Cristina Dorado. Vous êtes à l'écoute de l'émission en français. Ce week-end se tenaient les élections au Parlement de la région de Galice, les premières après les présidentielles nationales de juillet dernier. Le Parti populaire a conservé sa majorité absolue qu'il détient depuis plus de 10 ans.
Sur les 75 sièges du Parlement galègue, 40 ont été pour le Parti populaire. Les conservateurs perdent 2 sièges par rapport à 2020, mais maintiennent leur indépendance politique avec le nouveau président Alfonso Rueda, après le saut de Núñez Feijóo à la politique nationale il y a un peu plus d'un an.
Gracias por lo enorme privilegio de ser o presidente sereno de todos y todas sin distinción.
Rueda a affirmé qu'il veut être le président de tous et a remercié les Galègues pour leur confiance.
L'opposition sera libérée par le bloc nationaliste galègue, le BNG de Ana Pontón. Les nationalistes galègues obtiennent 25 sièges, 6 de plus qu'en 2020.
Somos por lo tanto un BNG consolidado, fortalecido, con más ganas y con más empuje que nunca para seguir defendiendo a su gente y a este país.
La présidente du BNG, Ana Pontón, a considéré que ce résultat renforçait la position de son parti, mais...
Que este resultado a nos parece nos insuficiente. Que nuestro objetivo era claramente abrir un tempo nuevo en este país.
Elles considèrent que les résultats sont insuffisants étant donné que leur objectif était d'ouvrir une nouvelle période dans ce pays.
Les grands perdants de ces élections galègues sont ceux du Parti Socialiste qui perd 5 sièges et qui n'en obtient que 9, très en dessous de leurs perspectives. Le candidat José Ramón Gómez Besteiro faisait le bilan de ce mauvais résultat.
Non obtivemos os resultados que agradábamos e debo decirlo así sin paliativos e non o conseguimos.
Les socialistes voient ainsi augmenter l'écart avec le principal parti de l'opposition et leur rôle sera moindre pendant les prochains 4 ans.
Tentando de atraer a Galicia as mellores oportunidades sendo o fiel reflexo da política útil.
Besteiro a dit qu'il travaillera pour attirer à la Galice les meilleures opportunités et que son parti participera d'une politique utile depuis sa position.
D'autre part, le parti provincial Democracia Ourensana a obtenu un siège et entrera dans le Parlement dans cette législature.
Es un salto cualitativo, realmente, porque por primera vez tenemos representación.
Armando Ojea, candidat de ce parti, qualifiait leur résultat d'avancée notable du fait de leur entrée dans la chambre régionale. Ceux qui ne sont pas entrés dans le Parlement galégue sont le parti d'extrême droite Vox et le parti de gauche Sumar, qui ne sont pas arrivés au minimum de voix pour obtenir une représentation parlementaire.
La participation dans ces comices a été plus haute qu'en 2020. Au-delà de 67% des personnes recensées ont exercé leur droit de vote dans les élections pour lesquelles 80 000 jeunes ont exercé leur droit de vote pour la première fois, soit un 3% des électeurs. Le vote extérieur a aussi beaucoup monté par rapport au dernier rendez-vous électoral. Galice est une des régions espagnoles avec le plus de votants à l'étranger, avec presque 500 000 personnes qui habitent en dehors de l'Espagne, ce qui suppose presque le 18% du recensement total des votants. La plupart se trouvent en Argentine et au Venezuela.
Quant à l'affaire de la mort de l'oppositeur russe Alexei Navalny, décédé vendredi dans une prison russe en Sibérie, les autorités du pays n'ont toujours pas déterminé la cause officielle de sa mort.
La veuve de l'opposant Alexei Navalny, Yulia Navalnaya, a promis de poursuivre la lutte contre le président russe Vladimir Poutine menée par son mari et a appelé ses partisans à la rejoindre. Je poursuivrai l'œuvre d'Alexei Navalny.
Чтобы мы вместе сплотились и победили.
Je continuerai pour notre pays, avec vous, et je vous appelle tous à vous tenir très près de moi. Ce n'est pas une honte de faire peur, c'est une honte de ne rien faire. C'est une honte de se laisser effrayer, a dit-elle. Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Álvarez, a affirmé qu'il soutiendra la veuve de Navalny.
Y le voy a transmitir en nombre del gobierno de España que esa lucha por la libertad y la democracia en Rusia es también la del gobierno de España y la del pueblo español.
Le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, affirmait que le régime de sanctions pour violation des droits humains va être renommé en honneur à l'oppositeur russe. Il a aussi dit que l'UE fera de son mieux pour aider les citoyens russes qui veulent vivre en liberté. Pendant ce week-end, les autorités russes ont arrêté des dizaines de personnes qui se sont montrées publiquement en soutien à Navalny et ont démontré plusieurs hommages en honneur à sa mémoire dans tout le pays.
Les organisateurs du Salon de l'agriculture qui s'ouvre samedi à Paris espèrent que cette 60e édition sera une belle fête épargnée par les manifestations.
Mais le monde agricole bouillonne toujours de revendications et de colère. Le rendez-vous annuel attend autour de 600 000 visiteurs en 9 jours au parc des expositions de la Porte de Versailles dans un climat électrique. La France vient de connaître 10 jours de crise agricole marquée par les blocages d'autoroutes, des déversements de fumier et même l'incendie d'un bâtiment de la mutualité agricole à Narbonne. L'organisme qui collecte les charges sociales des agriculteurs et réverse des prestations.
L'alliance syndicale majoritaire FNSEA Jeunes Agriculteurs n'a pas relâché la pression sur l'exécutif depuis qu'elle a appelé le 1er février à lever les blocages à la suite d'annonces gouvernementales allant du versement d'aides d'urgence à des décrets de simplification en passant par une pause sur le plan de réduction des pesticides éco-phyto.
La FNSEA veut constater les premiers résultats des mesures annoncées et attend la levée de ce qu'elle considère comme des freins à la production. Les interdictions de pesticides, la concurrence déloyale, la surabondance de normes et de paperasserie. La colère du monde agricole s'exprime plus largement en Europe avec des manifestations en Grèce, en Italie, en Espagne, en Pologne. Les organisateurs du salon redoutent l'irruption des manifestants.
Dans le sport, l'hispano-géorgien Ilia Topuria s'est imposé à l'Australien Alexander Volkanovski samedi soir à Los Angeles et s'est consacré comme champion de la catégorie de poids welter.
Champion of the world!
Oh!
Ilia Topuria, El Matador, prolonge ainsi sa série de victoires et reste invaincu avec un résultat de 15 victoires sans aucune défaite. Le combattant d'ascendance géorgienne qui a grandi à Alicante en Espagne avait fait preuve de beaucoup de confiance avant le combat et il n'a pas déçu ses supporters. Il a abattu l'Australien dans le deuxième assaut avec un KO technique et après le combat, il a défié l'Irlandais Conor McGregor à l'affronter à Madrid. Il y a plus de 450 millions d'années, un océan couvrait la région espagnole de Castille et León. À ce moment-là, la péninsule ibérique se trouvait près du pôle sud et des eaux froides et peu profondes remplaçaient les longues plaines jaunes qui la couvrent aujourd'hui. C'est ici que se trouve Montsaralo, un petit village d'une centaine d'habitants dans lequel les maisons incluent dans leur structure leurs fossiles de créatures marines de presque 500 millions d'années, créant ainsi le plus grand musée de fossiles à l'air libre de toute l'Espagne. C'est dans la rive du fleuve Alarón, dans le parc national de Las Batuecas, à l'intérieur de la réserve de la biosphère de Béjar, dans la chaîne de France, dans la province de Salamanque. La conseillerie de tourisme de Castilla y León et la commune de Salamanque ont développé le musée des fossiles de Montsaralo et le centre d'interprétation des mers anciennes. Ils ont coordonné un programme pour visibiliser ces restes archéologiques et les expliquer aux visiteurs. Des panneaux informatifs ont été installés dans tout le village et permettent aux visiteurs de se mettre à la situation et de savoir à quel animal ont appartenu ces restes au fur et à mesure qu'on avance dans cet itinéraire urbain. D'ailleurs, le musée à l'air libre de Montsaralo est le site archéologique le plus important du monde pour les trilobites, car c'est ici qu'il y a le plus de variétés de ces fossiles et où ils sont le mieux conservés. Les trilobites étaient un type d'arthropode extinct, pour lequel il y a plus de 22 000 espèces décrites. Ils ressemblaient à des cloportes géantes et ils étaient couverts d'une sorte d'armure qui les protégeait des prédateurs. Cependant, il y a trois types de fossiles à Montsaralo, les crucianas, les russophicus et les ripples. Les crucianas sont les empreintes de trilobites en mouvement, les russophicus sont les empreintes de fossiles laissées par les trilobites en repos et les ripples sont les marques d'ondes d'eau sur le fond marin. Montsaralo a aussi un musée d'interprétation des mers anciennes grâce auquel les visiteurs peuvent comprendre le procès de formation des différents fossiles visibles dans tout le village et apprendre davantage sur l'environnement qui couvrait cette terre il y a des centaines de millions d'années. Ce musée a aussi une section de réalité virtuelle à travers laquelle on peut essayer de se mettre à l'endroit de ces êtres vivants qui vivaient il y a si longtemps. Une expérience pour mieux comprendre notre Terre et sa situation dans le temps à travers les âges de notre planète. Vous pouvez trouver toute l'information nécessaire sur le site web de la commune de Montsaralo, montsaralo.es, ou chercher le Museo de los Mares Antiguos de Montsaralo. Est-ce que vous êtes prêt à redécouvrir les périodes les plus anciennes de la Terre depuis un point de vue unique? Alors n'hésitez pas et rendez-vous à Montsaralo pour une expérience inoubliable.
Noticia de última hora, Nicolás Caballero.
Ha sido a las 7 en punto en la edición digital del diario Gara.
100 años de radio.
Publicado, ETA dice que ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. ETA,
20 de octubre de 2011,
los gobiernos de
comienza el final de ETA.
ETA, con esta declaración histórica, dicen, muestra...
Así lo contamos claro, en Radio Nacional.
Definitivo. Esta noticia la iremos ampliando en los siguientes boletines.
La radio de todos.
Comment extérioriser le sentiment d'appartenance à deux cultures différentes à travers la danse? Qu'est-ce que le syncrétisme et le transhumanisme? Inès Archier, connue comme Sibyl Voudounès, nous répond à ces questions et à d'autres à travers une performance pleine de signification et de sens. Elle est une des résidences du programme artistique Acento à la Casa Encendida de Madrid et la semaine dernière, elle a montré sa performance dans la session d'artistes résidents de ce centre culturel madrilène. Inès Sibyl Voudounès a conçu une performance chorégraphique qui est en soi un exercice d'autocontemplation et qui réfléchit sur les limites entre la beauté et ce qui est loin de l'être. Transhumanisme, culture créole, héritage syncrétique, des sujets très complexes abordés à travers la danse dans un spectacle de son et de lumière chargé de symbologie qui vise à ouvrir les esprits des spectateurs. Ce projet artistique, ceux de deux autres artistes, composent les résidences artistiques du programme Acento, une initiative de la Casa Encendida à Madrid. Inés Sibyl Voudounès est ici avec nous aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour, c'est un plaisir d'être ici, merci.
Le plaisir est notre. Alors, nous avons évoqué d'une façon assez abstraite ta performance. Et est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour compléter sa description ?
Donc, en fait, c'est une pièce qui me permet d'inventer une rencontre avec Erzuli, qui a multiples visages. Donc, en fait, c'est à travers la danse que j'invente ces rencontres avec le vaudou. Donc, ça me permet, en fait, de créer une identité à partir de la fiction, en fait.
Et est-ce que tu peux nous décrire un tout petit peu en quoi consiste cette danse ? Parce que moi, personnellement, je l'ai vue et je trouve que c'est très difficile à décrire parce qu'on n'est pas habitué à voir ce genre de danse.
Donc, en effet, je comprends parce que, en fait, on pourrait dire que c'est en soi une danse aussi syncrétique. En fait, j'utilise mon champ chorégraphique qui serait le kuduro de l'Angola et le coupé décalé de la Côte d'Ivoire pour créer cette approche au vaudou et aux racines haïtiennes. Donc, en fait, en gros, ça vient un peu de cette expérience en tant que catalane de ne pas être considérée en tant que telle. Et en fait, ça me permet d'utiliser la danse comme une façon de créer justement mon identité. Et je le fais depuis cette idée d'une négritude qui est flexible, soi-disant. Donc, je peux être en Angola, je peux être en Côte d'Ivoire ou m'imaginer en train de l'être, non, avec ces danses que j'utilise qui sont en moi, dans mon corps, pour justement m'approcher de ces divinités et d'essayer de sculpter ma propre identité à travers la danse, en fait.
Une identité dans laquelle effectivement les origines sont toujours très importantes pour nous tous. Et tu nous disais que toi tu viens de Barcelone, mais que ton père est haïtien. Ton français est pourtant parfait. Donc j'imagine que ton père et sa culture ont eu une prépondérance aussi dans ton enfance ou dans le temps que tu as grandi, non ?
Donc effectivement, mais ça a été toujours à partir un peu de l'imagination. Parce qu'en fait, ça a été toujours à travers la musique, à travers les tableaux que j'ai à la maison, à travers... parce qu'en fait, moi, j'ai fait que deux voyages en Haïti quand j'étais petite et après, lorsque j'avais 21 ans. Et il y a toujours ce côté depuis... je pense que la diaspora a toujours un côté d'imagination, d'invention. Et c'est justement à partir de cette idée que j'aime travailler, de faire des autoportraits, en fait... danser, déformer, inventer.
Oui, tu dis que tu as été deux fois, c'est déjà pas mal. Est-ce que tu voudrais revenir une troisième fois ou est-ce que maintenant que tu as commencé à intégrer tout ce bagage culturel, est-ce que ça te donne encore plus envie de repartir là-bas pour reprendre des inspirations peut-être ?
Donc, j'aimerais beaucoup, j'imagine... En fait, dans un futur, dans l'avenir, la possibilité d'aller en Haïti en rencontrant d'autres artistes, parce que je sais qu'il y en a plein. Il y a beaucoup d'artistes haïtiens qui m'inspirent, haïtiens de la diaspora, mais aussi haïtiens qui y vivent. Il y a beaucoup d'artistes visuels qui m'inspirent énormément dans mon processus artistique. Donc j'aimerais énormément, par exemple, je connais le centre d'art de Port-au-Prince, donc j'aimerais beaucoup... y aller en tant qu'un échange, plutôt.
Effectivement. Et bon, je vais profiter de l'occasion pour parler aussi un peu de la culture haïtienne et surtout de ce voodoo qu'il y a derrière, qui est très mystérieux pour les personnes en Europe ou même aux États-Unis et qui souvent est limité à ce cliché de voodoo. Mais on ne sait pas que finalement, c'est une religion qui a même plus de 4000 ans d'histoire. Donc, c'est une religion assez syncrétique, mais je sais que la plupart des gens ne savent pas exactement ce que veut dire ce mot. Et comme tu l'as utilisé pour décrire ta danse, et je voulais te demander de nous décrire un petit peu plus les mouvements ou la chorégraphie que tu présentes, est-ce que tu peux nous raconter en quoi consiste une danse qui relève du syncrétisme ?
Donc en fait, le vaudou est un monde une religion très 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 complexe, énorme. Et c'est justement ça qui me plaît, qui attire mon attention en fait, parce qu'en fait dans le vaudou il y a un double syncrétisme. Il y a un syncrétisme qui a lieu entre les cultures africaines et après un autre syncrétisme entre les cultures africaines et les occidentales. Donc tout ça s'organise en fait dans une seule structure. Ce qui est passionnant en fait, le fait de pouvoir contenir de multiples éléments en fait, mais rester une seule chose. Et c'est en fait ce que je veux être moi-même, ce que je tente à travers ma danse. Et ce que j'aime aussi dans le voodoo, c'est que ça produit des divinités énormément complexes, énormément contradictoires, mais c'est-à-dire par exemple Erzili, elle a beaucoup de visages, elle peut être douce, elle peut être perverse, elle peut faire souffrir, mais elle peut protéger. En fait, c'est ces divinités qui ont des caractéristiques humaines et qui ont, en fait, il n'y a pas que ça, elles peuvent être simultanément des choses qui sont opposées à l'origine et en même temps elles peuvent continuellement avoir d'autres figures, c'est-à-dire que par exemple on va voir dans des tableaux, on va voir dans la littérature, il y a plein de visages d'Erzuli qui continuent à être créés constamment. Et c'est par exemple moi dans ma pièce, j'utilise un extrait de Pays sans chapeau de Dany Laferrière où c'est Erzuli qui parle en première personne. Et j'ai été, quand j'ai lu ce livre, ça m'a énormément touchée de me sentir en fait reflétée dans cette figure d'une divinité qui est complexe, qui est jalouse, qui est énorme, qui est astronomique, qui a une sexualité énorme. Donc c'est je trouve cette religion énorme dans ce sens-là, où elle produit des corps qui sont en fait, dans un sens, illégibles. Tu peux pas les appréhender.
J'allais justement te demander, parce que c'est vrai que tu accompagnes ta danse avec un répertoire de sons et de lumière. Donc, quelle était l'idée ou qu'est-ce que tu voulais renforcer avec cette disposition sonore et luminique ?
Donc déjà, il y a plusieurs choses, parce qu'en fait, même si c'est un solo, même si je suis seule dans ma salle de répétition, moi, j'aime essayer d'atteindre quelque chose qui est collectif, une certaine communion, on va dire. Et ce que j'aime, c'est que même en partageant mes idées avec d'autres artistes, c'est Eddie Ramirez, c'est Nelsonic Supersonic Brainwaves qui a fait le son, Eddie a fait les projections. Donc j'aime ce côté d'essayer, même si c'est depuis ma subjectivité, d'essayer d'atteindre une certaine idée d'acte collectif noir. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs individualités qui sont présentes. Et c'est ainsi que pour moi fait sens la production d'une certaine individualité et d'une conscience existentielle. Mais c'est toujours depuis cette idée de collectivité. Il y a une idée de déformation, d'essayer de créer notre propre forme, nos propres avatars de cette divinité. Mais il y a toujours un effort collectif. Il y a aussi cette idée dans les coutumes qui ont été faites par ma sœur, Sophie Archer. Et ça renforce cette idée que même si je suis seule en scène, il y a toujours cette présence collective qui fait que ces langages se soutiennent en fait.
Mmh. Ouais, finalement, toutes ces choses-là confluent dans toi et ta danse sur scène en ce moment-là. Je pense que c'est cela que tu dis, non ?
Exactement, exactement.
Mmh. Et dans ce procès créatif, j'imagine qu'au début, tu as travaillé toute seule, mais depuis un moment, il y a la Casa Encendida qui t'accompagne et qui t'a intégré dans le programme Acento, qui est un programme de résidence dans lequel on vous cède un espace, d'après ce que tu nous disais avant, pour développer le spectacle que tu veux créer, dans ton cas, cette chorégraphie, et pour après l'interpréter devant des personnes. Alors, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur ce programme, sur la performance que tu as fait le vendredi chez eux, ou si tu veux nous raconter un peu plus sur cela.
Donc ça a été une opportunité énorme pour moi, parce qu'en fait moi j'avais déjà travaillé sur cette performance, mais cette résidence artistique m'a permis de revisiter d'une certaine façon et compléter, approfondir sur l'investigation. En fait, dans la danse, c'est très difficile d'avoir une place, non ? Donc, le fait de... J'ai dû créer cette pièce d'une façon, soi-disant, avec très peu de d'outils. Et le fait d'avoir cette opportunité, cet espace à la Casa Enfermida, ça m'a permis justement d'approfondir, d'ajouter des éléments dans ce solo. Donc, moi, j'avais déjà représenté cette pièce, mais je pense que ce que j'ai fait vendredi a été un peu plus proche d'un projet final. C'est-à-dire que ça m'a vraiment permis de donner espace à l'investigation, à la recherche philosophique et de mouvement, donc esthétique et réflexive, qui donne sens à cette œuvre. Donc, pour moi, ça a été merveilleux d'avoir cette opportunité ici. Ça m'a permis d'avoir l'accompagnement artistique de Ignacio Danton, et ça a vachement enrichi ce que je présente en fait.
Je ne sais pas s'il y a quelque chose en plus que tu veux ajouter par rapport à de nouveaux projets que tu as en tête ou de nouveaux événements dans lesquels on peut te voir, toi. C'est le moment pour faire un peu de pub.
Donc, c'est parfait. Merci. Je suis en train de travailler sur deux œuvres. La première s'appelle Cindy dans les eaux astronomiques. Et il y a une autre pièce sur laquelle je travaille qui me sert en fait à unir ces deux pièces. Donc, Santa Estrato Autonomo et Cindy dans les eaux astronomiques. Et ça s'appelle Notre Lacou Digital. Donc, en fait, je vois ces deux œuvres sur lesquelles je travaille à présent comme une façon de continuer à élargir mon identité à travers une pratique virtuelle, tout en fait inventant des rencontres fictives avec le vaudou, toujours avec ce chant chorégraphique qui serait le coupé décalé, le kuduro. Et je vais présenter ma pièce à Terrassa. Je suis maintenant, j'ai une coproduction du festival Penate et une coproduction à Lisbonne du Teatro de Barro Alto pour 2025. Donc vous pouvez me voir en fait à Terrassa et à Lisbonne prochainement.
Oui, on laissera ton profil Instagram dans la description pour que les personnes qui sont intéressées par tout ce que l'on a raconté dans cette interview puissent aller visiter ton profil et être informées des prochains événements et voir en image finalement ces chorégraphies que tu nous proposes. Inés Sibyl Voudounès est l'artiste, une des artistes résidentes de la Casa Encendida, et elle a été vendredi là-bas pour faire cette performance, et elle a été avec nous ici aujourd'hui pour nous raconter cela et d'autres projets. Nous espérons avoir te réavoir très bientôt avec nous et que tu puisses nous raconter davantage sur le reste de tes projets. Merci beaucoup, Inès.
Merci beaucoup, ça a été un plaisir.
À la prochaine.
Vous êtes à l'écoute de l'émission en français.
Brother, brother, there's far too many of you dying.
À très bientôt, chers auditeurs et auditrices. Merci à Inès Archer pour le temps qu'elle nous a consacré. On se retrouve jeudi. Je vous emmène à la découverte de l'exposition Surréalisme, l'ère de la machine, de la main de la commissaire Pilar Parcerisas.
Nous partons au rythme de Marvin Gaye avec son What's Going On. Merci beaucoup de nous avoir choisis. Et rappelez-vous que vous pouvez réécouter nos émissions passées sur le site rtve.es ou sur RTVE Player. À la prochaine.
Hasta muy pronto.
Picket signs, don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Oh, what's going on? What's going on? What's going on?
just simply cause our hair is long. Oh, you know that we've got to find a way. Bring some understanding here today. Oh, oh, oh. Picket lines and picket signs. Don't punish me with brutality. Come on, talk to me. You can see what's going on. Yeah, what's going on? Tell me what's going on. I'll tell you what's going on. Ooh.
Right on. Right on.